Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 3h à Pékin et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, 35 morts dans une attaque à la voiture bélier dans le sud de la Chine. Une attaque conduite par un homme déséquilibré dans un pays où la prise en charge de la santé mentale est complètement défaillante. Trump dévoile le casting de sa future administration avec des proches et des faucons anti-Chine. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, est ainsi présenté comme futur chef de la diplomatie. Sous pression américaine, Israël ouvre enfin un point de passage pour l'aide humanitaire à Gaza. Insuffisant selon les ONG qui parlent des besoins immenses de l'enclave palestinienne, complètement exsangue après plus d'un an de bombardements israéliens. Enfin en France, la presse attaque en justice le réseau social X d'Elon Musk. Au cœur du bras de fer avec le milliardaire américain, le respect du principe des droits voisins. L'effroi en Chine après cette attaque terriblement meurtrière à la voiture bélier dans le sud du pays. 35 personnes ont été tuées, 43 blessées après qu'une voiture a foncé sur la foule hier soir devant un stade dans la ville de Zhuhai. Les motivations du conducteur, un homme de 62 ans qui a tenté ensuite de se suicider, n'ont pas encore été élucidées. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir des difficultés après un divorce. Ce genre d'attaque n'est en tout cas pas un phénomène isolé en Chine et traduit entre autres un manque de prise en charge de la santé mentale, comme nous l'explique Jean-Louis Roca, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre de Recherches Internationales.
C'est des phénomènes qui arrivent assez régulièrement, qu'une personne qui effectivement se sent victime d'une injustice et ne sent pas avoir de recours se lance dans ce genre de choses. Alors contrairement à d'autres pays où les armes circulent très facilement, très souvent ce sont des vengeances individuelles, comme ça on utilise sa voiture, on utilise un couteau. Et ça dénote un aspect particulier de la société chinoise. Il y a dans beaucoup de pays, un accompagnement, des structures liées à la santé mentale, ce qui n'est pas le cas en Chine. Ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que la société chinoise, depuis la fin des années 90, subit une transformation absolument énorme et les gens, de manière générale, sont sous pression quand ils sont étudiants dans leur scolarité, parce qu'il y a une compétition entre les enfants très tôt pour accéder aux meilleures universités. Il y a une compétition évidemment sur le lieu de travail aussi. On fait des heures de travail extrêmement longues, etc., etc. Donc, il y a une tension générale, je dirais, dans la société chinoise, qui commence d'ailleurs à être remise en cause par un certain nombre de mouvements culturels. Et donc, pas étonnant que des individus pètent les plombs, comme on dit, parce que d'un côté, ils sont déjà sous pression et de l'autre, ils ne peuvent pas profiter de structures qui leur permettent d'accéder à une meilleure santé mentale.
Le spécialiste de la Chine, Jean-Louis Roca, au micro de Yelena Tomic. Aux États-Unis, à la veille de sa rencontre avec Joe Biden, demain à la Maison-Blanche, Donald Trump commence à distribuer les postes de sa future administration. Et sans surprise, le président élu place ses proches à des postes clés et notamment les tenants d'une ligne dure face à la Chine et à l'Iran. À l'image de l'influent sénateur de Floride, Marco Rubio, pressenti comme prochain chef de la diplomatie américaine. Autre faucon, le représentant de Floride, Mike Waltz, devrait occuper le poste de conseiller à la sécurité nationale, deux postes stratégiques. Loin des projets de gouvernance républicains, dans le camp adverse, les démocrates, eux, pensent toujours leur plaie. Une semaine tout juste après la défaite retentissante de Kamala Harris, une bonne nouvelle leur est néanmoins parvenue aujourd'hui en provenance d'Arizona concernant le Sénat. Après 4 jours de décompte, c'est le candidat démocrate Ruben Gallego qui l'a emporté face à son adversaire républicaine, Carrie Lake, ancienne présentatrice télé et surtout alliée tonitruante de Donald Trump. Ruben Gallego devient ainsi le premier sénateur latino d'Arizona, Carlota Morteo.
C'est grâce au vote des hommes latinos, un groupe que Kamala Harris a eu du mal à convaincre, que Ruben Gallego l'a emporté de peu. Car les résultats sont tout de même serrés, malgré une très mauvaise campagne de sa rivale Carrie Lake, Ruben Gallego devance la candidate trumpiste de seulement 73 000 voix sur plus de 3 millions d'électeurs. Au vu des analyses de vote, il semble que Ruben Gallego ait aussi réussi à toucher une partie des conservateurs modérés. Il est un vétéran de l'armée, il a combattu en Irak et il a assumé pendant sa campagne le fait d'avoir été traité pour syndrome post traumatique dans un état qui compte 450 000 anciens combattants, ça compte. Ce fils d'une immigrée colombienne célibataire pauvre a mis en avant ses origines modestes, mais aussi son bilan de législateur pragmatique, puisque Ruben Gallego n'est pas un inconnu. Il a été réélu 5 fois au poste de représentant à la Chambre. Grâce à lui, les démocrates remportent donc un siège de sénateur dans ce bastion républicain de plus en plus compétitif. Les électeurs ont par ailleurs voté pour garantir dans la constitution de l'Arizona l'accès à l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse.
Le Sénat américain est désormais aux mains des républicains, tout comme la Chambre des représentants. En Israël, les provocations des faucons du gouvernement Netanyahou, l'année 2005 sera, avec l'aide de Dieu, l'année de la souveraineté en Judée et Samarie. Ces mots, ce sont ceux du ministre des Finances, Colon, et l'un des chefs de file de l'extrême droite israélienne. Avec cette déclaration, Bezalel Smotrich indique en tout cas sa volonté, à la faveur de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, eh bien, d'annexer une partie de la Cisjordanie, autrement appelée Judée-Samarie par l'administration israélienne. Une déclaration condamnée par le ministre palestinien des Affaires étrangères qui dénonce un colonialisme raciste, un mépris répété du droit international. Car la Cisjordanie, Guilhem Deltel, est un territoire palestinien occupé par Israël.
La Cisjordanie fait partie intégrante de l'État palestinien partiellement reconnu par le droit international. Mais depuis 1967, ce territoire, situé sur la rive ouest du Jourdain, à la frontière avec la Jordanie, est occupé par Israël. Une occupation prolongée, jugée illégale par la Cour internationale de justice en juillet dernier. Lors des accords d'Oslo qui ont lancé un processus de paix avec les Palestiniens, la Cisjordanie a été divisée en 3. Les villes ont été placées sous autorité palestinienne, les villages sous contrôle mixte israélo-palestinien et les zones rurales, soit l'essentiel du territoire, sont restées sous un contrôle israélien total, mais un contrôle exercé par le ministère de la Défense, pas les ministères civils. C'est dans cette partie-là que le ministre israélien des Finances veut appliquer ce qu'il appelle la souveraineté israélienne. Cela reviendrait aux yeux de la loi israélienne à faire d'elle un territoire israélien plein et entier, une démarche déjà menée par Israël à Jérusalem-Est et dans le Golan, conquis sur la Syrie. Un projet semblable avait déjà été initié par le précédent gouvernement de Benjamin Netanyahou en 2020, mais il avait été interrompu en échange d'une normalisation des relations diplomatiques avec 4 pays arabes.
Israël, qui sous pression américaine a enfin ouvert aujourd'hui un nouveau point de passage à Kisoufin pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Un geste jugé encore insuffisant par les ONG alors que l'enclave palestinienne est complètement exsangue après plus d'un an de bombardements israéliens qui ont fait près de plus de 44 000 morts. Et les frappes se poursuivent sans relâche, notamment sur le nord de la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'un mois. Au moins de 24 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens. Frappes meurtrières également sur le Liban. Au moins 15 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. En France, la presse attaque le réseau social X en justice après l'AFP, l'agence France Presse, la semaine dernière. Eh bien, les groupes Le Monde, Le Figaro et Le Parisien, qui concentrent une vingtaine de publications, demandent à la justice de faire appliquer le principe des droits voisins. C'est une nouvelle étape dans le conflit qui oppose les groupes de presse au réseau d'Elon Musk. Nathalie Vitran.
Quand vous faites par exemple une recherche en français sur le moteur de recherche Google ou que vous vous baladez sur X ou sur Facebook, vous tombez bien souvent sur des photos ou des extraits d'articles issus de la presse française. Des articles qui génèrent du trafic et donc des revenus publicitaires pour les géants du web américain. Depuis 2019, le droit européen prévoit que ces géants rémunèrent donc les médias dont ils utilisent le contenu. Or, le réseau social d'Elon Musk a toujours refusé de s'asseoir à la table des négociations. Les groupes de presse français avaient intenté une première action à l'été 2023 pour obtenir de X les les données brutes sur l'utilisation faite de leur contenu et donc établir la valeur réelle du préjudice. Malgré une décision de justice en ce sens, fin mai, X s'y refuse toujours. D'où cette action conjointe visant à forcer le réseau social à respecter la loi. Avant X, Google aussi s'était montré réticent à négocier, jusqu'à ce que l'autorité française de la concurrence lui inflige deux amendes record coup sur coup de 500 et 250